Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.
Chers amis, on se retrouve pour le débrief de Radio VFM et Foot Normand, épisode 14 ce mardi. Vous le savez, numéro exceptionnel consacré au Mercato qui s'est refermé au cours de la nuit de lundi à mardi. On continue cette spéciale Mercato dans un instant avec le Havre Athletic Club.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.
Spécial Mercato dans ce débrief Radio VFM Foot Normand aujourd'hui avec moi Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
Et puis notre invité sur cette deuxième partie, c'est le directeur général du Havre Athletic Club, Pierre Ventier, qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Ventier.
Bonsoir.
On avait Johan Eudlin, le directeur sportif du Stade Malherbe de Caen, comme invité de la première partie. Avec lui, on évoquait également le Mercato, bien évidemment, du Stade Malherbe. J'ai envie de vous demander, comme à lui, si vous avez bien dormi la nuit dernière, Pierre Ventier.
Bon, on dort toujours bien déjà parce qu'on est, entre guillemets libéré, mais bon, d'abord le mercato s'arrête à minuit, hein, donc c'est pas. Oui, on a bien dormi. On aurait aimé peut-être trouver une option sur un profil de joueur offensif. On l'a pas trouvé, mais on n'était pas c'était pas pour nous une nécessité absolue. En tout cas, on l'a pas perçu comme tel. Paul était très clair sur le sujet. Si c'est un vrai renfort, oui. Si c'est pas un vrai renfort, non. Voilà. Donc du coup, on est resté comme ça. Et on verra ce que la deuxième partie de saison donne, mais on reste ambitieux.
Oui, parce que cette dernière journée du côté du HAC, elle a été animée notamment par le départ de Ralid Boutaïb, un départ qu'on va qualifier de surprise, en tout cas pour l'environnement extérieur. Donc Ralid Boutaïb, hein, qui s'est engagé au Paris FC, il a signé un contrat d'un an et demi. C'était un départ qu'on ne pensait pas spécialement prévu. Visiblement, c'est le joueur qui aurait demandé à partir, c'est ça Monsieur Ventier ?
Oui, une situation un peu particulière. Ralid a 35 ans au mois d'avril. Le club lui propose un an et demi de contrat, visiblement à des conditions séduisantes. Bon, voilà, on a réfléchi et puisque Paul considérait que c'était un départ qui était acceptable, le club l'a accepté parce que c'est un joueur qui est transféré et dans le contexte économique, je suis désolé d'être un petit peu réfrigérant, mais le contexte économique peut pas être ignoré. On peut pas se dire qu'on vit une crise terrible dans le football et ignorer une opportunité. Voilà, Ralid, je constate juste, je faisais l'expérience et je veux pas mêler des affaires des autres, mais je constate que Ralid est vendu dans les mêmes os de transfert que Kenyan Ensona. Je dis juste simplement qu'il faut se rendre compte que c'est aujourd'hui l'économie dans laquelle vivent les clubs de Ligue 2. Donc ce type de somme n'est pas négligeable pour aucun club, pas plus Malherbe que nous, que d'autres clubs de Ligue 2 en France.
Bien sûr, on rappelle hein, que Ralid Boutaïb était en fin de contrat au HAC au mois de juin, donc forcément pour lui c'est intéressant parce qu'il gagne une année de contrat. Et donc vous évoquiez l'aspect financier, hein, notre confrère de Paris-Normandie et spécialiste du HAC, Benoît Donquel, évoquait une indemnité autour des 500 000 euros. Forcément pour un joueur de 34-35 ans, à 6 mois de la fin de son contrat, on peut considérer que financièrement c'est une bonne opération pour le HAC.
Oui, alors après je confirme pas exactement l'indemnité de transfert parce que je sais pas à moi de communiquer pour les achats du Paris FC, mais l'ordre de grandeur n'est pas déraisonnable, les chiffres cités sont pas déraisonnables. Oui, mais je redis, si on n'avait pas considéré que sportivement le retour de Jamal, que l'on espère pour les jours prochains, Jamal Thiaré, plus les joueurs offensifs que l'on a déjà, Papi Mnouba, Quentin Cornet, Nabil Alioui, Mathis Abli, etc., plus les jeunes, voilà, on pense que l'équipe peut tourner avec le même niveau sportif, le retour de Jamal étant pour nous effectivement important.
Juste un petit mot, vous évoquiez Jamal, est-ce qu'on peut espérer le voir, allez, je veux dire, au mois de février, je veux pas aller plus loin.
Alors, je suis pas médecin, les médecins sont plutôt confiants. Après, il a un petit souci, secret médical m'interdit, d'abord je ne suis pas au courant de son dossier dans le détail, mais il a un souci qui n'est pas, dramatique, mais qui est très gênant au quotidien. On a espéré d'ailleurs à un moment donné qu'il serait déjà prêt pour les journées précédentes. Ça n'a pas pu se faire, notamment pour le match contre le Paris Football Club. Ça n'a pas pu se faire. Voilà, peut-être qu'il sera dans le groupe à Niort. On n'exclut pas totalement qu'il puisse reprendre. Après, voilà, c'est lui qui ressent la douleur et la gêne. Mais c'est vrai que c'est un vrai handicap pour nous.
Pierre Ventier, directeur général du Havre Athletic Club, vous êtes l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand ce mardi. On évoquait tout à l'heure le départ de Khalid Boutaïb. C'est un départ qui avait peut-être été un petit peu anticipé par le club, hein, puisque vous aviez enregistré le prêt jusqu'à la fin de la saison du jeune Mathys Ablin, 18 ans, on le rappelle, qui arrive en provenance du Stade Rennais. On a entendu Paul Le Guen dire qu'il fondait beaucoup d'espoir sur lui, vous aussi.
Alors, si Paul a parlé technique, c'est pas vrai qu'il ait parlé technique par-dessus Paul. Non, mais pour être très clair, moi, j'ai une très bonne relation à titre personnel avec Bruno Genesio, c'est mon copain de très longue date. Bruno, depuis longtemps, quand on en a parlé, on a fait un match amical à Dinard en début de saison. Déjà, dans une conversation informelle, Bruno m'en parlait comme un des vrais espoirs du Stade Rennais. Paul a, c'est bien ses connexions, et sur la Bretagne en particulier. C'est un joueur dont le talent n'est pas contesté par personne. Après, voilà, c'est un joueur qui a 18 ans et demi. N'allons pas demander à Mathys Ablin d'être le Tino Kadewere des 4 prochains mois. Mais on est tout à fait convaincu qu'il peut et qu'il va nous apporter quelque chose, c'est sûr.
Je reviens juste un petit peu, donc c'est avec Mathys Ablin, du coup compense numériquement maintenant le départ de Khalid Boutaïb, un départ qui a été différemment perçu hein, par les supporters et la communauté Célémarine. Donc comme on disait, certains estimaient que c'était une belle opération qui avait été faite par le HAC, notamment sur le point de vue financier. D'autres reprochent un petit peu au HAC de renforcer un concurrent direct. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette remarque?
Alors, déjà, Paris va continuer à jouer à 11. Hein. Donc, ils ont aujourd'hui un quatuor offensif, enfin, ils avaient d'ailleurs hier soir un quatuor offensif, qui était Gabi, Gori, Laura et Boutaïb, nos joueurs. Bon. On savait que l'arrivée de Boutaïb faisait partir Gaëtan Laura, voilà, on savait très bien. On marquerait d'ailleurs qu'il y a eu une concordance des temps qui est très, très révélatrice. Est-ce que Paris s'est renforcé en prenant Khalid, en perdant Laura, l'avenir le dira. Moi, si vous voulez, je ne suis pas en train de supputer sur les situations. Nous on considère aujourd'hui que les joueurs à potentiel offensif que l'on a avec l'arrivée de Mathys et le retour de Jam prévu, on considère qu'aujourd'hui, on pouvait faire sans Khalid. On pense aussi, Paul, le club, qu'avoir 5 ou 6 joueurs pour 2 places, ce n'est pas forcément l'idéal pour tout le monde. Et donc c'était un choix assumé. On l'assume, le club, on sait qu'on est critiqué. Hein. Moi, enfin, j'ai vu un café en ville au Havre, on m'a dit que c'était une énorme connerie. Mais voilà. En tout cas, on l'assume parce que c'est compliqué aussi de dire à un joueur qui a une opportunité, tu restes contre ton gré, et on n'est pas certain pour autant que tu joueras. Voilà. Le respect des hommes, je sais que ça peut faire sourire, mais le respect des hommes, à un moment donné, ça compte. Khalid est venu de façon très correcte, de façon absolument... constructive au sens où il serait resté sur les sujets qui restent. Nous, on considère, le HAC, égoïstement, pense que le potentiel défensif, quand Jamal sera de retour, et l'arrivée, je dis, de Mathys et les joueurs déjà en place, font qu'on peut faire la deuxième partie de saison sur les mêmes bases, voire mieux que la première partie de saison. C'est le challenge qu'on s'est fixé, on y croit.
Ouais, juste un mot, vous évoquiez le départ du PFC de Gaëtan Laura, c'est un joueur qu'on connaît bien, hein, Mathieu, dans la région, il est orné, il a joué à Saint-Lô notamment, et effectivement, il a bien progressé depuis, en tout cas là, il a fait un choix de carrière puisqu'il a décidé de quitter le Paris FC pour rejoindre Cosenza, 17e de Série B, autrement dit la deuxième division italienne.
Ouais, on peut même dire, alors, il a joué je crois de mémoire à Argentan, à Alençon, à Saint-Lô, à Évreux, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Et il s'est révélé, on va dire, au haut niveau, entre guillemets, sous le maillot de QRM.
Complètement.
Donc, on le connaît très très bien en Normandie. Et le HAC le connaît très bien parce que c'est à l'époque d'un tour de Coupe de France, il avait fait mal au Havre sous le maillot d'Evreux, si je ne me trompe pas, monsieur Montier.
C'est pas au club, on en a parlé.
C'est ça, voilà, d'accord. Oui, ça recommence, ça remonte à quelques années. On fait un petit peu le point sur peut-être aussi la dernière journée du mercato. On évoquait peut-être un intérêt de Dunkerque pour le jeune Ilan Gomez, votre jeune attaquant.
Dunkerque cherchait à se remporter. Bon, ça s'est pas fait, mais pour des raisons qui sont très simples, c'est que dans la situation de Dunkerque privilégiait l'expérience, un joueur, je dirais, rompu à la Ligue 2 pour essayer d'aller chercher le maintien, bon, ce qui n'est pas le profil d'Ilan. Nous, on pense toujours que pour un jeune joueur, c'est plus important de jouer plus que tout. Voilà, mais peut-être qu'il reste encore quelques marchés qui ne sont pas fermés, je pense. La Turquie, mais voilà, je ne suis pas très fan d'envoyer un jeune joueur en Turquie en prêt. parce que c'est quand même une adaptation qui est plus complexe, mais il y a d'autres options, notamment je pense à la Suisse, qui peuvent être qui peut être un championnat intéressant, qui peuvent permettre à des joueurs de grandir. C'est l'intérêt des joueurs de prêter, c'est pas l'intérêt du club en particulier. L'intérêt du club, c'est de voir revenir le joueur plus fort. Et on se rend compte que beaucoup de joueurs qui, à un moment donné dans leur carrière, ont accepté d'être prêtés, en ont tiré un grand bénéfice. Voilà, c'est dans l'esprit de la construction de la carrière et de leur développement personnel. Après, voilà, il y a des joueurs qui considèrent que jouer en national est infamant. Je pense qu'ils font une grave erreur. Le national, c'est un championnat qui est dur. Tous les clubs de national le savent. Les matchs sont durs. Moi, je regrette, et je profite pour faire passer le message, les joueurs qui préfèrent rester ici en Ligue 2 plutôt que d'aller chercher du temps de jeu en national font de très mauvais choix de carrière. Voilà. Mais c'est leur choix et il faudra qu'ils les assument.
Pierre Ventier, pas d'arrivée post-mercato, comme ça avait été le cas, on s'en souvient, avec Ismaël Bourra, par exemple, au mois de septembre.
On n'a plus le droit. Le mercato, 31 janvier, il clôture le recrutement pour la saison, sauf cas de joker médical, c'est-à-dire très grave blessure, enfin, je sais pas mieux ça. Mais là, aujourd'hui, non, le mercato, il est terminé en France, donc il n'y aura plus d'arrivée sur la deuxième partie de saison. Mais je voudrais dire quelque chose quand même sur le mercato en général. Tous les clubs de la première partie de Ligue 2 en France, du top, il y a eu top 6, top 7 de l'instant, tous ces clubs ont cherché à se renforcer par un attaquant. Tous sans exception. Et on regarde aujourd'hui, quand on prend le classement, Toulouse n'a pas réussi à trouver ce qu'il cherchait. Sochaux, qui a cherché avec des moyens énormes à l'échelle de la Ligue 2, n'a pas réussi à trouver d'attaquant. Ajaccio s'est fait prêter un joueur en dernière minute, dans la dernière ligne droite, parce que ça renforce ou pas, l'avenir le dira. Le Paris FC, on a perdu un, on a recruté un. Il faut bien comprendre que ces difficultés que le HAC a rencontré, mais j'imagine Malherbe aussi, enfin tous les clubs, hein, je parle Malherbe ou Quevilly parce que ce sont nos voisins régionaux, il y a une très grande difficulté aujourd'hui sur la Ligue 2 à recruter des joueurs, parce que les joueurs qui ont un contrat dans un club de Ligue 1 préfèrent conserver leur contrat, rester entre guillemets au chaud, et ça rejoint quelque part d'ailleurs ce que je regrette sur des jeunes de chez nous qui refusent d'aller chercher du temps de jeu en national. On constate qu'il y a certains joueurs qui ont peu de temps de jeu en Ligue 1, mais qui préfèrent rester dans leur club de Ligue 1. C'est un choix, hein, c'est chaque individu est libre, mais regardez bien, faisons un bilan calme et lucide du mercato, et vous verrez que aucun club de Ligue 2 ne s'est réellement renforcé pendant cette période de mercato.
On va évoquer aussi un joueur dont on entend régulièrement parler pendant les périodes de mercato, enfin depuis deux mercato exactement, mais aujourd'hui il est toujours sous le maillot au Ciel et Marine, c'est forcément le jeune Isaac Touré dont on entend forcément beaucoup parler. Est-ce qu'il y a eu des offensives le concernant durant ce mois de janvier pour éventuellement qu'il soit transféré ?
Il n'y a pas eu d'offensive au sens où vous l'imaginez, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu de proposition pressante. On avait été très très clair avec l'environnement d'Isaac en disant, voilà, nous l'objectif il est de garder Isaac jusqu'à la fin de saison. Il est de garder Isaac parce que là pour le coup effectivement on se serait retrouvé dans un système avec uniquement trois défenseurs centraux expérimentés. On sait qu'aujourd'hui, l'équipe joue avec trois axios, c'est pas forcément figé, mais ça nous paraissait court d'avoir trois joueurs pour trois postes jusqu'à la fin de saison. Donc là, on avait dit, sauf opportunité qui nous permet effectivement de remplacer dans des conditions très confortables économiquement, sauf opportunité de cette nature, on ne le laissera pas partir. Voilà. On en a discuté, c'était très clair, et à partir de là, l'essentiel des clubs qui étaient intéressés le voulaient tout de suite, ça clôt le débat, Isaac reste. C'est aussi un recrutement de garder Isaac. C'est aussi un recrutement, il faut le comprendre. Que dans beaucoup de situations, beaucoup de clubs auraient probablement ouvert les portes en grand pour récupérer ce qui pouvait être récupéré. On a fait le choix de ne pas récupérer cet argent pour garder le joueur.
Forcément, la période de mercato hivernal, du coup, c'est refermé lundi. Mais on imagine que dans les clubs, ça fonctionne 12 mois sur 12. Il va falloir déjà un petit peu se projeter peut-être déjà sur l'été prochain. Il y aura peut-être les dossiers Isaac Touré, voire Abdoulaba, qui sont en fin de contrat en 2023, si je ne m'abuse. J'imagine que l'état-major du HAC travaille déjà un petit peu là-dessus, sur soit une éventuelle prolongation si les joueurs acceptent, bien entendu, soit voir un transfert pour ne pas se retrouver toujours dans cette même situation avec des joueurs qui partent libres à la fin de leur premier contrat professionnel.
Oui, mais il y aura des propositions de prolongation faites à certains des joueurs de l'effectif, c'est évident. Il y a des joueurs aujourd'hui qui nous donnent pleinement satisfaction. Après, on a fait le choix de ne pas commencer à ouvrir la porte aux discussions en plein milieu de saison, en plein hiver. Voilà. Peut-être qu'on aura eu tort à la fin, je ne sais pas, moi je ne tiens pas de vérité. Simplement, on veut aujourd'hui que l'équipe reste focus sur l'objectif sportif, qu'on continue à jouer les matchs. On fera le point au printemps sur les situations. Mais oui, si on sait qu'on arrive à la fin cette saison, là, hein, on aura un bouleversement dans l'effectif du HAC, mais tous les joueurs qui sont au HAC, y compris ceux qui sont en fin de contrat, ne partiront pas. Hein. Je pense que vous avez constaté aussi qu'on a prolongé Arnaud Sanglanté jusqu'en 2025, Fernand Mayembo jusqu'en 2024. Voilà, on a quelques joueurs qui sont chez nous, dans la durée, qui vont servir à constituer la base pour l'année prochaine. On ne part pas, comment dirais-je, tout nu pour la saison prochaine.
On précise juste dans les prolongations, on peut citer également aussi Mathieu Gorgelin, le gardien qui avait prolongé, il y a quelques mois. Voilà, il fait partie des autres joueurs. Et juste sur les joueurs en fin de contrat, si je ne m'abuse, parmi l'effectif, Pierre Gibaud, Jean-Pascal Fontaine, Alexandre Bonnet et Imad Abdelli font notamment partie des joueurs qui sont en fin de contrat.
On peut rajouter Tierno Baldé et les deux joueurs prêtés, Tierno Baldé et Fofana, qui sont deux joueurs titulaires. Hein. On en est conscient. Yaya Fofana, on sait qu'il a fait le choix de partir libre en fin de contrat. Ainsi. Oui, on a des joueurs en fin de contrat. On avait Ralid Boutaïb qui est parti. On a forcément Mathis Sabine qui est également en fin de contrat. Et on a Quentin Cornette qui est en fin de contrat. Mais on est conscient qu'on a un chantier important. On est aussi conscient d'une chose, c'est que quelques jeunes méritent d'avoir encore plus de temps de jeu. Alors c'était le cas cette année, hein, on l'a vu au milieu. Moi je pense que si on avait écouté certaines personnes, on aurait recruté au milieu cette année. Est-ce qu'Amir Richardson aurait vu la porte s'ouvrir comme il l'a ouverte? La porte s'est ouverte parce que lui a mis le pied dedans et s'est imposé. Hein. Le mérite lui en revient. Mais c'est aussi parce que le club a fait en sorte de lui laisser la possibilité de jouer, comme il l'a fait pour Yaya, comme il l'a fait pour Arruda. C'est l'ADN du HAC. Il faut entendre que l'ADN du HAC passera toujours par la valorisation de sa formation. Et donc, ça suppose que de temps en temps, on prenne un risque à un poste en se disant, on va faire confiance à un jeune. C'est sûr que c'est toujours plus sécurisant d'avoir un joueur 30 ans, 200 matchs de Ligue 2 à un poste, oui. Mais on se rend compte aujourd'hui que les anciens jouent pleinement leur rôle de cadre et de leader dans l'effectif. On le voit, on l'entend, on le sent sur le terrain. On le sent aussi évidemment dans le vestiaire. C'est très important, mais c'est important aussi parce que les jeunes ont de la qualité, ils sont à l'écoute des anciens.
Débrief spécial Mercato avec Radio BFM et Foot Normand. Ce mardi, notre invité Pierre Ventier, directeur général du Havre Athletic Club. Encore quelques mots, Pierre Ventier. Le mois de janvier a aussi été marqué évidemment par la signature de Yaya Fofana. Vous l'évoquiez tout à l'heure, à Angers jusqu'en 2026. On rappelle que Yaya Fofana, formé à la Cave Verte, était en fin de contrat au 30 juin. Il était donc libre de s'engager où il le souhaitait à partir du 1er janvier, dans l'optique bien sûr de la saison prochaine. C'est ce qu'il a fait. C'est pas faute, on le sait, de lui avoir formulé des propositions de prolongation, mais il n'empêche que le Havre va percevoir 0 € sur ce départ. Il restera néanmoins titulaire jusqu'à la fin de saison dans les cages du Havre Athletic Club.
En tout cas, il ne sera pas sanctionné. Titulaire, ça c'est le coach qui fait l'équipe, mais il n'y aura pas de sanctions parce que d'abord le Yaya est dans son droit, il faut quand même respecter le droit de chacun. Ça c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que Yaya il se comporte bien, il travaille à l'entraînement, il est performant, il est positif, il n'y a absolument aucune raison. Alors c'est décevant pour nous, clairement, c'est très décevant. Qu'un jeune formé au club, il ne faut jamais oublier qu'un jeune qui est formé au club, ça veut dire que pour un joueur, le club aura investi sur lui, et sur lui seul, dans la formation, 400 000 euros. Bon, je trouve, voire plus, le prix revient, si je puis m'exprimer ainsi, de la formation d'un jeune joueur, et parfois plus. Je trouve que c'est bien que ceux qui ont bénéficié d'un dispositif qui leur permette d'émerger et de se construire et de réussir, pense que pour former d'autres petits Yaya Fofana, alors qu'il est très grand, et d'autres jeunes, c'est bien que le système économique fonctionne. Si à un moment ou à un autre, on arrête le système économique, bah forcément, on arrêtera de pouvoir investir dans la formation. Notre regret, il est là. Après, Yaya, il est en fin de contrat, le droit lui permet de partir, ça s'appelle la liberté des individus, il faut quand même respecter ça, c'est la moindre des choses. Voilà, il part, je le redis. Il se comporte, il n'y a absolument aucun reproche à lui faire sur l'attitude, l'engagement, l'investissement sur le terrain et le niveau de performance. Il n'y a aucune raison qu'on le sanctionne. Sa situation, elle est très différente. Vous n'y faites pas référence, mais moi, je vais le faire à la situation en son temps d'Aaron Moukoudi. Aaron Moukoudi avait demandé en son temps à l'époque une quatrième année de contrat pour se sécuriser. C'est différent. Yaya n'a jamais rien demandé. Et donc, il est en fin de contrat. Mais on le regrette, oui, qu'il parte, évidemment.
Et pour finir donc du coup cette deuxième partie du débrief, on va quand même dire un petit mot de la performance du week-end du côté du HAC, avec cette qualification de l'équipe des U18 pour les huitièmes de finale de la Gambardella, des U18 qui ont un petit peu créé l'exploit en dominant le PSG 1-0 sur un but d'un des espoirs justement de la Cave Verte, Steven Goura. Bon forcément ça fait plaisir Monsieur Ventier hein, de voir une telle performance, ça met quand même bien en valeur la formation havraise.
Oui, oui, mais ça, de toute façon, je le dis, la formation, elle est centrale dans le projet du club. J'étais au match, c'est clair, soyons clairs, tous ceux qui étaient au match savent que voilà, si Paris avait égalisé, ça n'aurait pas été un scandale. Maintenant, le Paris Saint-Germain, c'est ce qui se fait de plus talentueux en termes de formation. Quand on voit la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain, ça laisse rêveur. Voilà, ça n'est qu'un match de coupe, donc ne nous enflammons pas. On n'a pas gagné la Gambardella. Et même si on gagnait la Gambardella, ça ne veut pas dire pour autant qu'on serait devenu les champions du monde. Mais c'est vrai que c'est encourageant, c'est une reconnaissance à la fois du travail qui est fait par toute l'équipe à la formation, et ça c'est incontestable. Donc c'est une reconnaissance du travail fait, c'est un encouragement pour les jeunes à s'accrocher. Moi j'ai trouvé que l'énergie qu'ils ont mis, et l'esprit de solidarité dont ils ont fait preuve est intéressant. Et puis effectivement, ça permet et ça va permettre à des joueurs. Moi j'ai eu la chance d'évoluer d'être dirigeant, directeur d'un club qui a gagné la Gambardella. C'est une expérience extraordinaire pour les jeunes joueurs. C'est encore la perspective d'un, deux ou trois matchs avec un peu plus de pression, un peu plus d'enjeux, avec du haut niveau en face. Et c'est formateur et ça les aide à se former. De ce point de vue-là, c'est tout bénéfice pour le club.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Aventier, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. C'était extrêmement important et intéressant pour nous, pour nos auditeurs, pour les lecteurs de Foot Normand, de vous avoir aujourd'hui dans ce débrief spécial Mercato.
Bonne soirée à vous.
Merci Pierre Ventier. Merci et beaucoup. À très bientôt. Voilà, tour d'horizon complet, Mathieu, de ce qui s'est passé durant les dernières heures de Mercato. On était presque dans les coulisses, au stade Malherbe de Caen dans la première partie, au Havre Athletic Club dans la seconde.
Tout à fait, voilà, un petit point complet sur ce Mercato. Maintenant, les clubs vont terminer les saisons avec les effectifs qu'ils ont en place. Donc voilà, ça, on va être un petit peu tranquille à ce niveau-là pendant quelques temps, même si on sait que les clubs vont déjà rapidement se projeter, comme nos deux invités l'ont dit, que ce soit Johan Hedlin du côté Canet ou Pierre Ventier du côté Havrais, sur la constitution des effectifs de la saison prochaine. Voilà, pas mal de fins de contrat, pas mal de retours de prêts, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc ça va commencer à bosser aussi sérieusement pour la saison prochaine.
L'actu de la semaine, c'est notamment le tirage au sort de la Gambardella, on l'évoquait tout à l'heure. Rendez-vous jeudi midi.
Jeudi midi, donc on a précisé qu'il y avait Malherbe, qu'il y avait le Havre, il y a aussi l'US Avranches.
Exactement, voilà, qui a réalisé un très joli exploit en allant se qualifier sur la pelouse du SCO d'Angers.
Voilà, tout à fait, à l'issue de la séance d'attir au but de partout. Donc il y aura trois représentants normands en huitième de finale de la Gambardella, ce qui n'est pas une mince performance.
Et l'actu de la semaine, ce sera aussi évidemment la 23e journée du championnat de France de Ligue 2. Elle aura lieu samedi à 19h. Deux matchs à l'extérieur sur trois pour les clubs normands, avec le déplacement du stade Malherbe de Caen sur la pelouse de la Lanterne Rouge, la Nancy-Lorraine. Ce sera à 19h. À la même heure, Le Havre sera en déplacement à Niort et QRM accueillera Grenoble également, donc à Diochon, samedi soir à 19h. Merci Mathieu.
Merci à vous.
Merci à Quentin Radic pour la réalisation de ce débrief spécial Mercato, Radio VFM et Foot Normand. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite pour parler foot. Bye bye.
Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.